Le journal de la santé de Louis XIV par Paul Lacroix. Tous les philosophes, tous les physiologistes ont remarqué les rapports extraordinaires qui existent entre la situation physique des individus et leur conduite morale. On a dit souvent que le médecin, mieux que le confesseur, pouvait expliquer la cause véritable d'une action que le corps aurait imposée à l'âme, car le confesseur ne cherche pas à voir au-delà des aveux qu'on lui fait, tandis que le médecin expérimenté devine, au simple examen des diagnostics, l'origine secrète et naturelle des plus grandes choses comme des plus misérables. L'esprit et la matière sont si étroitement liés ensemble qu'on ne saurait récuser l'empire exercé par celle-ci sur son invisible compagnon. Les spiritualistes de notre temps ont comparé l'esprit à un cavalier montant ce qu'ils nomment la bête humaine, avec plus ou moins d'adresse et plus ou moins de vigueur, en sorte que le cavalier dirige sa monture après l'avoir domptée, sinon cette rétive bête ne connaît plus de frein et emporte son cavalier Dieu sait où. Cette comparaison romantique vient fort bien à l'appui d'un système qui reconnaît l'influence de la santé corporelle et du régime hygiénique dans le caractère, les mœurs et les moindres circonstances de la vie des personnes. Ce système va droit à nier le libre arbitre. Que le libre arbitre se défende en bon catholique, je ne m'y oppose pas, et le laisserai faire en déclarant avec Pascal que la mort de Charles Ier ne doit être imputée qu'à un gravier qui était dans la vessie de Cromwell. On n'a jamais songé à faire concorder les événements du règne de Louis XIV avec les variations de son état sanitaire. On n'a pas encore, parmi 100 paradoxes impertinents, débattu à l'endroit de cette époque historique, fouillé dans l'officine pharmaceutique de la maison du roi, pour y découvrir des ordonnances de la faculté relative à Louis le Grand et digne d'être annexées en forme de pièces justificatives à l'histoire de son temps. Voltaire, l'auteur ébloui et éblouissant du siècle de Louis XIV, avait pourtant indiqué cette voie médicale pour le jugement des hommes et de leurs actes, lorsqu'il a conseillé de n'adresser une demande à un ministre qu'après avoir interrogé le valet de chambre de ce personnage sur les mystères de la garde-robe ministérielle. « N'espérez rien de la plus juste requête, s'écrie plaisamment Voltaire, si vous la présentez dans un moment inopportun, lorsque l'homme d'État a passé une mauvaise nuit ou se trouve engourdi des suites d'une indigestion. » Eh bien, Voltaire s'est borné à cet aperçu lumineux qui nous met sur la route d'un nouveau genre d'histoire philosophique. Trois premiers médecins de Louis XIV ont pris la plume, chacun à son tour, pour enregistrer les indispositions de leur auguste client, le nombre et les formules des médecines et des lavements composés pour lui, et en même temps les éloges adulateurs adressés à ce grand roi avec accompagnement de seringues et de mortiers. Valot, D'Aquin et Fagon sont les auteurs du plus étrange journal manuscrit qu'on puisse imaginer sous l'impression des comiques réminiscences du malade imaginaire. La bibliothèque du roi possède ce burlesque et grave mémorandum des victoires et des flux de ventre de Louis XIV. Nous examinerons peut-être plus tard la partie apologétique du registre des historiographes en robe de docteur. Nous allons seulement ici extraire ce qui concerne le tempérament du roi, les accidents survenus à sa santé et les soins de la médecine pour la conservation de cette illustre vie qui semblait alors être celle de la France. Nous regrettons de circonscrire, à l'espace de quelques années, ces extraits et le travail critique auquel ils donneront lieu. L'histoire entière de ce règne, durant plus d'un demi-siècle, serait probablement plus éclaircie et mieux appréciée si l'on y ajoutait, en manière de commentaires et de scolies, les observations diététiques et les récipés purgatifs des trois premiers médecins du roi. Voici les réflexions générales que Valot a placées en tête de son livre, destiné à servir d'instruction à lui et à ses successeurs. Dieu, par une grâce particulière, nous a donné un roi si accompli et si plein de bénédictions, en ce temps où toute la France avait presque perdu toutes les assurances d'une si heureuse succession, et lorsque le roi, son père, d'heureuse mémoire, commençait à se ressentir d'une faiblesse singulière, causée avant l'âge par ses longues fatigues et l'opiniâtreté d'une grande maladie, qu'il avait réduit en état de ne pouvoir espérer une plus longue vie, ni une plus parfaite guérison, de sorte que l'on avait sujet, durant la grossesse de la reine-mère, d'appréhender que ce royal enfant ne se ressentît de la faiblesse du roi son père, ce qui indubitablement serait arrivé si la bonté du tempérament de la reine et sa santé héroïque n'avaient rectifié l'impression de ses premiers principes. Ce paragraphe, en style d'apothicaire, renferme cependant, sous son obscurité et son embarras, qui ne résultent pas tant de l'ignorance de l'écrivain que de la préoccupation du courtisan, le germe d'une révélation historique qui planait du vivant de Louis XIII sur le berceau de Louis Dieudonné. Valot, médecin d'Anne d'Autriche, était initié aux détails de la romanesque conception de la reine qui, grâce à un hasard adroitement ménagé, rencontra son mari au Louvre un soir du mois de décembre 1637 et partagea cette nuit-là le lit conjugal où elle n'était pas entrée depuis 12 ans. Mais le bonhomme Valot ne se fit aucun scrupule d'attribuer à son vin émétique et à son quinquennat la robuste constitution de Louis XIV, qui n'avait rien de la débilité maladive et malsaine de Louis XIII. Le jeune prince fut atteint de la petite vérole en 1647 et soigné par Vautier, son premier médecin. Valot, qui suivait aussi cette dangereuse maladie, augura dès lors tout ce que promettait le courage précoce de cet enfant, qui témoigna de la patience et de la fermeté dans les plus fortes douleurs et dans l'accablement de plusieurs accidents, n'ayant refusé ni les saignées, ni les incisions, ni tous les autres remèdes extrêmes que l'on a proposés à Sa Majesté. Ce courage, cette docilité aux prescriptions des médecins, cette patience dans les remèdes, n'étaient que les conséquences de la crainte de la mort, crainte si vive et si pressante chez Louis XIV, qui redoutait la vue du clocher de Saint-Denis et qui, tout cuirassé d'égoïsme, se croyait réellement immortel, comme ses flatteurs le lui répétaient au figuré. Que n'aurait-il pas fait pour prolonger ses jours celui qui osait dire « l'État, c'est moi » et qui se consolait de mourir en espérant que Madame de Maintenon le rejoindrait bientôt. Valot, ayant succédé à Vautier en qualité de premier médecin, commença par examiner toutes les particularités nécessaires à l'exercice éclairé de ses fonctions. Il ne négligea pas même de consulter la science astrologique, tout habile praticien qu'il fût. « J'ai remarqué, dit-il, en Sa Majesté, une naissance très heureuse et une jeunesse accompagnée de force et de vigueur, avec toutes les marques d'une santé toute parfaite, pourvu que Sa Majesté veuille avoir de la vertu pour résister aux excès de la jeunesse. » Valot, qui voulait absolument que le roi eût été engendré d'un père fort valétudinaire et sur la fin de ses jours, l'engageait à se défier de sa délicatesse de poitrine et de sa faiblesse d'estomac. À l'ouverture du corps de Louis XIV, on lui trouva, dit Saint-Simon, tout aussi parfaitement conformé qu'on jugea qu'il aurait vécu plus d'un siècle, sans les fautes qui lui mirent la gangrène dans le sang. On lui trouva aussi la capacité de l'estomac et des intestins, double au moins des hommes de sa taille. Si Louis XIV fut le plus grand mangeur de son siècle, il ne fut pas le plus faible héros des amours des Gaules. Il ne ressemblait guère sur ces deux points à son bonhomme de père, le chaste et sobre Louis XIII. L'année 1652 termina les troubles de la Fronde. La bataille du faubourg Saint-Antoine livra Paris au parti de la reine et du cardinal Mazarin. Les rebelles furent exilés, le cardinal de Ré arrêté, et la cour amena au Louvre le jeune roi. Celui-ci avait partagé les fatigues des marches et contre-marches de son armée. Il restait longtemps à cheval, assistait aux conseils et prenait part aux affaires sous la direction de sa mère et du cardinal. En outre, le jour de sa majorité avait été devancé par celui de sa puberté, et Madame de Beauvais, femme de chambre d'Anne d'Autriche, quoique laide et borgnesse, s'était amusée à enseigner au roi un art qu'elle connaissait bien, dit la princesse Palatine dans sa correspondance. Saint-Simon raconte la même chose. On comprend que la bonne constitution du roi, âgé de 14 ans, devait se ressentir d'un abus aussi pernicieux de ses forces. Aussi, dès qu'il eut pris quelques jours de repos à Paris, il se trouva, dit le journal de Valot, travaillé d'un simple flux de ventre qui fut promptement apaisé par un bon régime et par un seul lavement où l'on fit dissoudre de l'huile d'amande douce. Ce genre d'incommodité, provenant toujours des excès de fatigue et de nourriture, se renouvelait fréquemment chez le roi, qui se livrait à tous ses appétits avec un emportement aveugle. Peu de temps après cette indisposition, il fut affecté d'une tension de ventre causée par un petit désordre, et ce pour avoir mangé trop de fruits. La princesse Palatine nous donne une idée de la voracité de Louis XIV en énumérant le menu d'un dîner qu'elle lui vit faire. 4 assiettées de soupes diverses, un faisan entier, une perdrix, une grande assiettée de salade, du mouton au jus et à l'ail, 2 bonnes tranches de jambon, une assiettée de pâtisserie, et puis encore du fruit et des confitures. On ne s'étonne pas que le roi eut recours aux purgations et aux lavements, qui excitaient davantage cette invincible faim, capable de surpasser les exploits gastronomiques de Gargantua. L'année 1653 ne fut pas favorable à la santé du roi, qui se livrait à des exercices violents et qui, grâce aux leçons de la Beauvais et sans doute aussi à la politique italienne de Mazarin, ne se contentait plus des plaisirs innocents de l'enfance. C'est à cette année-là qu'il faut rattacher une anecdote ambiguë racontée par Laporte et répétée par Voltaire, laquelle imputerait un attentat infâme au cardinal. Quoi qu'il en soit, le roi eut, dans le mois de janvier, une tumeur squireuse au sein droit et des dartres vives par tout le corps. Valot le guérit à l'aide d'un emplâtre qu'il avait inventé en faveur des religieuses de Sainte-Marie, très sujettes aux loupes des genoux à cause de l'austérité de leur vie et de la nudité de leurs pieds. Louis XIV avait dans le sang une âcreté qui se révéla dès sa naissance par des gales et des érysipèles, sans que les médecins parvinssent à détruire ce principe d'éruption cutanée. C'était là certainement une des causes organiques de son caractère orgueilleux, obstiné, despote, irritable. C'était là aussi le foyer de ses amours. Il faut le dire, en demandant pardon de cette hypothèse triviale aux dames et à la dignité de l'histoire, si Louis XIV ne fut pas venu au monde couvert de gales, et s'il n'eût pas tari le lait d'un nombre infini de nourrices, il aurait imité son père, qui tirait avec des pincettes un billet doux caché dans le corset de Madame de Hautefort, et les noms de Mancini, de Lavallière, de Montespan, de Fontange et de tant d'autres n'éveilleraient aucun souvenir de galanterie et de libertinage. Le roi, s'étant échauffé à danser et à répéter son ballet le 8 mars, fut saisi, après avoir soupé, d'un frisson par tout le corps, qui lui dura plus d'une heure, et fut suivi d'un accès de fièvre très considérable, qui lui dura toute la nuit avec beaucoup d'inquiétude. Telle fut la déplorable éducation de Louis XIV, qui savait à peine lire et écrire, comme l'atteste la princesse Palatine, mais qui, en revanche, dansait à merveille. Il demeura tellement ignorant, dit Saint-Simon, que des choses les plus connues d'histoire, d'événements, de fortune, de conduite, de naissance, de loi, il n'en sut jamais un mot. Le cardinal Mazarin tenait la main à perpétuer ainsi l'enfance et l'incapacité de Louis XIV, qui n'eût pas régné par lui-même si le premier ministre avait vécu plus longtemps. Louis XIV, qui dansait les ballets, déclamait des vers, chantait des ariettes, jouait à la pomme et chassait le cerf au cour, se trouva roi un jour sans avoir appris ce que c'était que la royauté. Il continua pourtant à danser devant sa cour jusqu'en 1669, où il profita d'un sage conseil que Racine mit adroitement dans la bouche d'un personnage de la tragédie de Britannicus. Louis XIV s'appliqua à ce qui s'adressait à Néron, ce terrible baladin, et depuis il ne figura plus sur le théâtre de Versailles. Sur la fin du même mois, après plusieurs fatigues, durant un ballet dansé à plusieurs reprises par Sa Majesté, entremêlé de quelques désordres et dérèglements à l'égard du régime de vivre, et même ensuite de quelques excès de quelques breuvages sucrés et artificiels, particulièrement de limonade, et pour avoir trop mangé des oranges de Portugal, le roi a ressenti une douleur et faiblesse d'estomac fort extraordinaire. Et comme il voulut, à son ordinaire et contre l'avis des médecins, garder religieusement le carême, Sa Majesté fut si fort travaillée d'un flux de ventre qu'elle rendait les aliments sans aucune coction. N'est-il pas édifiant de voir Louis XIV jeûner et faire maigre en carême, après avoir dansé en costume de dieu païen et s'être abandonné à sa gourmandise? Ce trait de caractère nous fait mieux comprendre que Louis XIV eut peur de l'enfer, au point d'épouser la veuve de Scarron par pénitence et pour gagner le ciel. La bravoure de Louis XIV a souvent été plus ou moins contestée. Le fait est que ce fougueux danseur emporta au camp de Verviers une fâcheuse indisposition qui, selon une vieille périphrase, n'était pas propre à mettre sa vertu en bonne odeur. L'armée espagnole se trouvait à un quart de lieue des avant-postes français, et cette armée, sous le commandement du prince de Condé, paraissait supérieure à celle de Turenne, qui se promettait bien de ne pas risquer une bataille générale. Le roi arriva donc, auprès de Turenne, dans l'état que Valot attribuait à un excès de limonade plutôt qu'au voisinage des ennemis. « Comme le mal augmentait, raconte ce témoin oculaire, je fus contraint, à mon midi, de lui faire prendre un lavement en descendant de cheval, étant encore tout beauté et en un lieu le plus désolé et le plus incommode de tout le royaume. » L'effet de ce remède donna un peu de force et de courage au roi, en sorte qu'il partit le lendemain matin pour continuer ses desseins et sa marche. Après cette confidence de Valot, on ne s'étonnera plus que l'année suivante, Louis XIV soit entré, tout beauté et un fouet à la main, dans le Parlement, lui qui exécutait gravement l'ordonnance du médecin sans ôter ses bottes en pleine campagne. Le prince de Condé n'eût jamais osé attaquer son roi dans cette position délicate. Le jeune roi, malgré le traitement ambulatoire auquel il se prêtait de si bonne grâce, ne put rester que 5 jours au camp où les Espagnols donnaient souvent de chaudes alertes. Il revint à Paris achever sa guérison. Mazarin l'emmena de nouveau à l'armée au mois de septembre pour le faire assister au siège de Saint-Meneu et aussitôt le malencontre flux de ventre de recommencer. Mais cette fois, Valot, qui ne le cédait en rien au purgon de Molière, imagina un traitement radical que le roi suivit sans cesser de monter à cheval tous les jours et de continuer ses grandes entreprises. Ce traitement se composait de 10 lavements de différentes sortes. Il n'en fallut pas moins pour réconforter le roi, qui ne descendit presque plus de cheval et qui força les assiégés de se rendre, dit la relation du médecin, ce qu'il n'aurait pas fait si tôt si sa majesté n'eût pas été présente et payée de sa personne. On devine maintenant pourquoi les seringues de Pourceaugnac et du malade imaginaire avaient le secret de dérider la majesté royale. L'année 1655 nous montre le roi amoureux et heureux, nonobstant les réticences de Madame de Motteville. Olympe de Mancini parut aimable aux yeux du roi. Il la voyait souvent, et cet amusement fit presque craindre que cette passion, quoique légère, ne le portât à vouloir lui faire plus d'honneur qu'elle n'en méritait. La reine, qui savait la sagesse du roi et celle de Mademoiselle de Mancini, ne se fâchait point de cet attachement, parce qu'elle le croyait innocent. Le cardinal Mazarin avait fait venir d'Italie ses charmantes nièces, avec l'espérance de s'en servir pour dominer le roi. Le médecin Valot ne soupçonnait pas que le cardinal atteignît son but par des moyens peu honnêtes, lorsque ce candide docteur écrivait sur son journal « Le roi eut une maladie que j'aurais attribuée à quelque cause honteuse, mais je n'avais pas pour lors de doute de la pureté de sa vie, non plus que de sa chasteté. » Valot employa saignée, purgation, eau minérale, et s'aperçut peut-être que l'enfant était devenu homme. 1 an après, Mazarin maria sa nièce Olympe au comte de Soissons. Le prévoyant cardinal avait d'autres nièces moins belles, mais plus rusées qu'Olympe. Louis XIV les voyait si familièrement qu'il finit par les aimer l'une après l'autre, et la dernière plus que ses sœurs. Marie de Mancini n'avait pour plaire qu'une grâce parfaite dans toute sa personne et qu'une affection exclusive pour le roi. Ce fut là sans doute ce qui lui gagna le cœur de ce prince qu'il aurait épousé si la reine-mère, indignée de cette alliance que Mazarin appuyait presque ouvertement, n'eût ordonné la séparation des 2 amants. Tous les historiens ont cité ce touchant adieu de Marie de Mancini. « Ah, sire, vous êtes roi, vous pleurez et je pars !» Le journal de Valot nous permet de supposer que ces pleurs dérivaient d'une affliction véritable et que le roi obéissait avec regret, moins à sa mère qu'à la raison d'État. Sa santé même fut singulièrement altérée à la suite du départ de Marie. Valot usa, en cette circonstance, de la panacée universelle des médecins de Molière. « Segnare, purgare, et clisterium donare. » Le triste adorateur de Marie de Mancini fut saigné 2 fois des pieds, 6 fois des bras, et purgé 4 fois. Le nombre des lavements ne nous est pas connu, mais on peut l'imaginer en raison des saignées et des purgatifs. Nous ne croyons pas que Valot ait emprunté cet étrange traitement au remédium à Maurice d'Ovid. Néanmoins, Louis XIV guérit et oublia sa maîtresse en épousant Marie-Thérèse d'Autriche. En 1661, Louis XIV commença réellement son règne. Le cardinal Mazarin étant mort et le surintendant Fouquet arrêté. On ignore le motif secret de la haine du roi contre Fouquet, mais on n'a que trop de preuves de la violence de cette haine qui se cacha 5 mois sous les dehors de la confiance et de l'amitié pour attendre l'occasion d'éclater comme la foudre sur le malheureux surintendant. La disgrâce de ce ministre ne satisfit pas les ressentiments implacables du roi qui espérait obtenir une condamnation à mort en le faisant juger. Valot nous apprend à quel degré d'irritation était monté Louis XIV contre cet insolent financier qui lui disputait le cœur et les faveurs de Mademoiselle de Lavallière. Le roi, qui s'était attaché avec tant d'assiduité et de prudence à prendre une entière connaissance de tout ce qui regardait la gloire et le bien de son état, préférant à tous les plaisirs les peines et les fatigues qu'il se donnait presque sans relâche, se voulut purger encore une fois et rendit beaucoup de billes. Cette bile fournit un texte d'adulation au bonhomme Valot, qui n'eut garde d'accuser le roi d'être plein de fiel pour ses ennemis. Sa grande sagesse, dit-il au contraire, avait formé cette égalité surprenante que l'on remarquait en lui. Mais si son cœur voulait nous en dire des nouvelles, nous apprendrions que, quoiqu'il soit plus maître de soi que tous les héros qui nous ont précédés, la chaleur de son sang et l'instabilité de ses esprits ne laissent pas de lui exciter des mouvements et de lui produire des passions comme aux autres hommes. On se souviendra que l'arrêt de Fouquet, condamné au bannissement après 3 ans de prison et de procès, fut loin de contenter Louis XIV, qui commua la peine du bannissement en celle d'une détention perpétuelle dans le château de Pignerolles. Cependant Louis XIV parut maître de lui lorsqu'il jeta sa canne par la fenêtre au moment de frapper Lauzun, qui lui demandait raison d'une offense de cette espèce. Était-ce prudence ou modération que de ne pas faire usage du bâton contre un gentilhomme? Nous ne poursuivrons pas plus loin cette comparaison des faits historiques avec les faits diététiques et médicinaux de la vie de Louis XIV. Nous n'avons voulu qu'offrir à l'histoire un nouveau moyen de porter ses jugements sur les hommes et sur les événements. Ainsi, on a lieu de croire que le roi, assistant comme spectateur au fameux passage du Rhin, ne fut pas obligé de descendre de cheval et de conférer avec ses apothicaires pendant la bataille grâce aux précautions purgatives qu'il avait prises avant de se rendre à l'armée. Ainsi s'achève le journal de la santé de Louis XIV par Paul Lacroix.